I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est avec un immense plaisir que je prononce ces mots. La saison 4 des Fous du Volant est lancée. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre podcast Made in Eurosport consacré à l'actualité de la Formule 1. Une actualité qui reprend cette semaine avec les premiers essais de la saison. Et pour débuter la saison 2023, j'ai à mes côtés Julien Pereira, alias Jap.
Salut. Salut Gilles, très content de reprendre cette saison.
Tout pareil.
Toi.
Au sommaire aujourd'hui et avant ces trois petites journées d'essais sur le circuit de Sakhir, on a choisi de s'intéresser à trois points qui nous paraissent particulièrement intéressants pour 2023 chez les top teams. La greffe de Fred Vasseur chez Ferrari, la réaction obligatoire de Hamilton face à Russell chez Mercedes et puis les difficultés possibles chez Red Bull suite aux sanctions de la fin de la saison 2022. Ensuite, on va s'attarder sur un ovni, un article du code sportif régissant la Formule 1 et qui limite désormais les sujets que les pilotes peuvent aborder lors des Grands Prix. Motus et bouche cousue, vœu de silence à la FIA. Mais avant de parler technique, règles, chrono, performance, on va parler beauté, esthétisme, plaisir des yeux, puisqu'on sort de la Fashion Week avec notre spécialiste de la mode, Quentin Guichard, qui va nous rejoindre pour ce sujet. On connaît la livrée de toutes les Formule 1 2023, alors il a fait le classement, et puis on va le partager avec vous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc aujourd'hui ces Fous du Volant par notre Fashion Week à nous. On a rassemblé toutes ces nouvelles livrées, d'ailleurs nouvelles pas pour tout le monde, de la Formule 1 2023 avec un spécialiste de la Fashion Week, notre spécialiste mode Quentin Guichard qui fait l'habillage de nos pastilles, du site internet aussi, hein, d'ailleurs eurosport.fr. Bonjour Quentin, ravi de te retrouver parmi nous.
Salut messieurs, je suis ravi de vous retrouver.
Salut Quentin.
Merci de m'accueillir.
Et alors, on t'a...
Grosse responsabilité.
Oui, ah, oui, on t'a confié quand même une lourde responsabilité, c'est de faire le classement de ces 10 livrées des Formule 1 qui vont évoluer en 2023. C'est toi qui vas nous donner le classement petit à petit. On commence par la dernière de la classe, celle qui est en 10e et dernière position.
Ouais, on va commencer avec un cri du cœur, un cri d'alarme, Gilles, Julien. Je vais pas me faire de copains sur ce coup-là peut-être, mais ma pire note cette année, c'est pour l'écurie Alpine. Voilà, l'écurie Alpine qui, où va Alpine tout simplement.
Mais alors pourquoi?
Alors on a ce, je suis désolé, mais ce rose. À quoi correspond ce rose? Alors oui, bien sûr, c'est le sponsor, mais Alpine ils ont un discours clair. C'est l'écurie tricolore, c'est le fleuron français. Alors, sauf si je suis passé à côté du nouveau drapeau tricolore qui doit être bleu, noir et rose, mais a priori, c'est bleu, blanc, rouge. On a de moins en moins de bleu, on a beaucoup de noir aussi. Enfin, on ne comprend pas trop le chemin que prend cette Alpine. Alors, oui, c'est joli, mais pour une autre écurie, voilà, volontiers. Rendez-nous le bleu, le blanc, le rouge.
Et alors, en plus, je trouve que tu es même encore un petit peu optimiste parce que là, sur l'illustration que tu nous proposes, alors pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne le voyez pas, mais il suffit d'aller sur un moteur de recherche et vous trouverez l'image. Les premiers Grands Prix, il n'y aura pas du tout de bleu, elle sera complètement rose. C'est-à-dire que c'est un peu le coup du profil Tinder, quoi. Tu vois, tu as une jolie photo, tu te dis, ah, on va peut-être passer une bonne soirée, et puis tu arrives et là, tu fais, waouh, qu'est-ce qui s'est passé?
Et là, on déchante.
Et là, elle est toute rose.
Et Alpine nous propose donc un semblant de Racing Point un peu bizarre.
Rose.
Bon bah voilà, je retrouve pas mon Alpine, je retrouve pas mon écurie. Et il y a 3 ans de cela, vous aviez jugé les Formule 1, les livrées avec Stéphane, et c'était tout simplement la plus belle voiture du peloton. Et ben voilà, on en est là 3 ans après. Pour moi, C'est une immense déception, un carnage, on peut le dire. Et rendez-nous l'écurie tricolore, rendez-nous le bleu, le blanc et le rouge.
Alors on va parler. Je te trouve sévère, mais
on va parler de carnage aussi à propos de McLaren et Williams qui se partagent selon ton classement. Hein. On rappelle, on va vous donner son numéro de téléphone, son adresse et tout. Après, vous pourrez vous débrouiller avec lui. McLaren et Williams qui se partagent pour toi la 8e place.
Alors à commencer peut-être par la Williams. Excusez-moi, c'est d'un ennui. On ne sait pas trop non plus ce qui en est. L'an dernier, déjà, c'était assez déceptif. L'an dernier, on avait l'impression qu'ils avaient collé 3 stickers de sponsors sur des planches de carbone. Bon, cette année, la nouveauté, Gilles, ça a l'air de te plaire. D'ailleurs, c'est cette pile de leurs sponsors qui se situe sur l'entrée d'air au-dessus du pilote.
Moi, je trouve
ça
drôle.
Tu es très pile.
Ah oui, oui. Moi, je trouve ça plutôt drôle d'avoir essayé d'intégrer une pile à la déco de la voiture.
Ces dernières années, Williams, ils ont tenté des choses. C'est bien de tenter, c'est encore mieux de les réussir. Williams, ces dernières saisons, c'est un peu cauchemar au garage, en fait, que ce soit sur la piste ou dans les coulisses au niveau du design. C'est un petit 4 pour eux. D'encouragement quand même. Voilà, ils nous font un petit peu de peine, mais voilà, revenez l'an prochain avec une autre livrée, je suis sûr qu'ils peuvent, faire beaucoup mieux.
Jap. On rappelle quand même, parce que là, c'est bien mignon de critiquer, mais la présence du noir, mon cher Quentin, c'est dû au fait que toutes les écuries cherchent à gagner du poids.
Bien sûr.
Et donc, on retire certains éléments de peinture pour gagner un petit peu de poids.
Je l'entends, mais ça rend... Moi, je note l'esthétique en tant qu'expert Fashion Week, comme le disait Gilles. Et en tant qu'expert...
Il y a peu d'évolution, ce qui est... C'est
après, le carbone, c'est très joli.
Tout à fait.
Mais trop de carbone tue le carbone.
D'accord.
C'est ce qu'on nous apprend en école de mode.
Tu retiens cette phrase, trop de carbone tue le carbone. Je te la ressortirai un petit peu plus tard. Donc voilà pour le Williams. On va voir la McLaren.
Ouais, la McLaren, c'est un carnage. C'est découpé, c'est des plus blocs.
Ils se sont trompés, c'était le stagiaire de 3e qui a fait ça.
Alors pour vous la décrire, pour nos amis en podcast, c'est des blocs orange, un petit peu de bleu, c'est beaucoup de noir. Moi, ce que je lui reproche, c'est son manque d'audace à la McLaren. Moi, je suis d'accord pour le orange, mais allons-y à fond sur le orange. Ouais, c'est la couleur mythique de l'écurie.
J'ai envie de leur dire, passez à l'orange.
Passez à l'orange, voilà. Mais on a envie de leur dire, passez à l'orange. Allez-y. Là, en plus, on a des sponsors. En veux-tu, en voilà, c'est la foire à la saucisse. On a à boire et à manger, dans tous les sens du terme. Je pense qu'il doit y avoir un sponsor de bouffe et un sponsor de boisson, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à piocher pour se régaler, pour se sustenter. McLaren, c'est un 4. Voilà, faut pas pousser mémé dans les orties, comme on dit.
On passe aux écuries qui ont la moyenne,
oui.
À savoir Red Bull, AlphaTauri, Aston Martin.
Le ventre mou de ce classement, on va commencer par la Red Bull.
T'es sûr que t'as pas pris une image de l'année dernière ?
Alors j'aurais pu vous piéger, ouais. Effectivement, j'aurais même pu prendre une voiture de 2019, de 2017, même au-delà. Il y a pas de changement. Et c'est vrai que si la monotonie était une voiture, ce serait celle-là. C'est la régularité dans. Alors c'est beau, hein ? C'est joli. On adore ce bleu nuit. On adore ces touches jaunes et rouges. Mais bon, voilà, faut prendre dans les critères de notation. Il y a aussi l'originalité, l'audace. Bon, ça gagne Red Bull, c'est sûr.
Il y a un point plus sérieux, c'est qu'en fait, ils ont payé quand même 7 millions d'amende Red Bull pour avoir dépassé le budget de cap l'année dernière, et que refaire la décoration d'une Formule 1, mine de rien, ça coûte de l'argent, ça coûte
bien
beaucoup
sûr.
D'argent, donc on peut imaginer qu'ils ont dit, bon, allez, on reprend l'année prochaine, voilà, dépense zéro, on passe à la suite.
Et puis pour Red Bull, il y a quelque chose d'importantissime aussi, c'est que la puissance commerciale de la marque est très différente des autres, parce que Red Bull, à la différence de Mercedes ou de Ferrari, ne vend pas des voitures, mais vend des canettes. Et pouvoir identifier le public à cette marque-là et à ces couleurs-là, c'est important. Donc c'est pour ça qu'on ne verra probablement jamais de grosses évolutions au niveau du style sur Red Bull.
Et pourtant, ils sont capables de nous faire des super livrées. Hein. On avait vu celle, c'était pour le Mexique, je crois, il y a une ou deux saisons, qui était en fait la livrée du Japon, mais le Grand Prix du Japon n'avait pas lieu, qui était toute blanche.
Tout à fait.
On va pas trahir de secret. On y a cru, Julien, à la livrée blanche.
On l'a espéré.
On l'a espéré. Pendant la présentation.
On a vite
déchanté quand on a quand on a vu que tout était bleu nuit autour. Mais c'est joli. Mais c'est la moyenne. Voilà, manque d'audace.
AlphaTauri peut-être après ?
Ouais, AlphaTauri, un petit peu le même problème que sa grande sœur en fait. Sauf que là, ils sont sur un délire négatif. Ce que j'entends par négatif, c'est-à-dire que les choses qui sont en bleu une année, bah, sont en blanc l'année d'après, et inversement. Donc là, pareil, c'est propre. Alors, petite nouveauté, parce qu'avec l'arrivée d'un nouveau sponsor, il y a des touches de rouge.
Oui. Et bah, je trouve que ça marche bien, moi.
Qui sont pas pour me déplaire, c'est vrai.
Et donc, tu lui mets que 5.
Alors,
c'est sympa.
Alors, peut-être que là...
Parce qu'il aime bien.
Peut-être que là, écoute...
On va s'éclater avec toi, quand même.
Écoutez, on est en direct, on est des fous, et je vais peut-être lui mettre un point de plus à cette AlphaTauri.
Ah, ouais, t'improvises voilà. Total, en fait.
Ah, là, j'improvise, je casse le conducteur.
Il assume pas.
Non, mais en réalité, je la trouve jolie, mais voilà, on a l'impression... Enfin, voilà, l'effet de surprise était sympa en 2020, en 2021, un peu moins, en 2022, encore moins. Bon, bah là, en 2023... Voilà, tentons des choses. Après, voilà,
La problématique est la même que pour Red Bull.
Voilà, il y a des chartes aussi qui sont très rigoureuses et très strictes dans la famille Red Bull, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les images de marque. On le comprend assez facilement.
Et enfin, dans ce ventre mou que tu qualifiais tout à l'heure, Aston Martin, avec finalement la même déco que l'année dernière.
Oui, pareil, près, j'aurais très bien pu vous piéger en vous proposant le véhicule de l'an dernier. Bah, c'est une voiture sobre, élégante, à l'image d'Aston Martin. Bah, voilà, elle laisse... Enfin, j'allais presque dire, elle me laisse indifférent. Mais bon, elle a un joli vert, voilà. Elle fait le travail. Voilà, que dire de plus ? En fait... C'est ni raté, ni réussi, c'est constant, c'est 5, c'est la moyenne, voilà.
Eh bien, on passe à des meilleures notes avec oui. As.
Alors là, je sais que c'est un sujet clivant.
Podium, alors là.
Ça, c'est un sujet clivant.
Explique-nous ce qui t'est passé par la tête. Tu veux changer ? Tu peux encore.
Ouais. Non, je vais maintenir ma position et je vais vous expliquer pourquoi.
7 sur 10, t'as mis. Hein.
7 sur 10.
À la As, d'accord.
Pour moi, c'est une réussite. On se souvient que l'an dernier, ça avait été un petit peu laborieux parce qu'on avait eu le départ de Mazepin un petit peu précipitamment, alors qu'ils avaient préparé une monture aux couleurs russes, voilà, bleu, blanc, rouge. Finalement, on nous avait servi une voiture très blanche avec quelques touches de rouge et de noir, comme cette année, sauf que cette année, ils ont pris le parti d'appliquer beaucoup plus de noir, ce qui donne du caractère. À ce véhicule, l'arrivée du nouveau sponsor se marie très bien, je trouve. On garde les. Non mais Julien ne fait
non
pas
mais
cette
tu
tête.
Trouves pas toi en tant que graphiste, tu trouves pas qu'en termes de vivacité des couleurs et de découpe aussi les parties blanches, parties noires, tu trouves pas que ça fait hyper old school. C'est peut-être pour ça que ça te plaît d'ailleurs.
Mais moi j'aime beaucoup le old school, c'est ça le problème.
Mais là ça fait old school raté, je trouve. Voilà.
Mais le fait que le sponsor As voilà soit blanc sur noir, voilà, on peut dire ce qu'on veut, Julien. Blanc sur noir, c'est la base. C'est la sobriété, c'est la classe, ça donne du caractère. Voilà.
À cette As.
On passe au deuxième ex-aequo, encore
oui,
une fois.
Il y a deux troisième ex-aequo plutôt. À la deuxième place avec d'abord l'Alfa Romeo.
Ouais, l'un de mes coups de cœur de cette année. Ils ont changé de sponsor, ce qui fait que ils sont passés du rouge et blanc au rouge et noir. Et alors là, mais c'est une réussite. Ouais. Ça donne vraiment du caractère à la voiture. On a envie de prendre le volant de cette voiture. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie de prendre le volant, d'aller à fond sur circuit fermé, bien sûr. On va pas
avec un casque. Tu vas pas rouler sur la route avec ça.
Non. Et alors, à mon avis, de toute manière, je ne vais pas rouler tout court avec cette voiture. Je prendrai bien la place de Valtteri ou de.
De Guanyu,
voilà, c'était un test. Voilà, je vous teste.
J'attendais.
Non, mais voilà.
Moi, j'aime bien le côté un peu glossy. On a vu beaucoup de monoplaces mat, ce que j'aimais bien pendant un temps. Et finalement, le mat, c'est un petit peu généralisé. Et là, on retrouve un effet un petit peu glossy, c'est sympa.
Et ça rappelle aussi les couleurs d'Audi.
Et c'est une anticipation aussi, effectivement.
Aussi, voilà. Et puis là, voilà, elle a des allures de grande, cette voiture. Voilà.
Bah, on verra ce qu'elle fera cette saison. Ferrari, même note.
Et en parlant de grande, parce que finalement, ça, c'est l'une de mes belles surprises de ces livrées. Alors, chaque année, Ferrari, on s'attend à du rouge, à un petit peu de noir, à un gros sponsor pétrolier sur le côté, une marque de lunettes. Et puis voilà. Sauf que l'évolution du rouge, là, pour moi, elle a bien venu. Ces dernières saisons, je trouvais le rouge un chouïa trop foncé.
Bah alors c'était le rouge, c'était en référence au rouge originel.
Voilà. Et là on revient au rouge, alors...
moderne.
Voilà, des années Schumacher, si je ne m'abuse.
Ah oui, je me demande s'il n'était pas un petit peu plus...
Un peu plus vif,
je me demande.
Ouais. Mais en tout cas c'est une réussite, et puis parlons de cet aileron, s'il vous plaît. Le logo historique...
Ça, effectivement.
Ferrari, lâche, je ne peux qu'applaudir des deux mains.
Je ne sais pas si ça va rester comme ça tout au long de la saison. On n'a plus, en tout cas, cette tache verte fluo qu'on avait vue sur la présentation l'année dernière et qu'on disait c'est pas possible. Et d'ailleurs, elle n'a pas été sur tous les grands prix.
Elle n'a pas fait long feu, ouais. Mais en tout cas, cette Ferrari-là, on avait envie d'en voir une belle comme ça depuis des années. Alors, c'est toujours beau, Ferrari. Mais là, cette année, c'est particulièrement réussi.
Ça va plaire, en tout cas, aux fans de...
Assurément. Ils ont marqué beaucoup de points avec l'aileron qui a fait fureur sur les réseaux.
Et donc, pour notre graphiste Quentin Guichard, la plus belle monoplace de cette saison 2023, c'est la... roulement de tambour.
C'est la Mercedes qui a fait le choix, pour moi, gagnant, de repasser tout au noir. Alors, on a aimé les flèches d'argent, on les aimera pour l'éternité, mais... Cette monoplace, oui, j'en fais des caisses.
Ah, oui.
Cette monoplace noire, pardonnez-moi, messieurs, dames, avec ses touches de jaune et de vert en fonction du pilote, c'est une réussite. On a même perdu le cartouche rouge sur la prise d'air du sponsor Ineos, qui faisait vraiment tâche, je trouvais, sur ces dernières saisons. Là, on a une monoplace, en plus, voilà, on le sait, pleine de symboles, et c'est aussi très bien qu'ils reviennent à cette monture-là. C'est une réussite. Je suis amoureux de cette voiture.
Je suis d'accord, mais je crois que Gilles ne l'est pas.
Oui, je vais citer Quentin Guichard. Il y a 4 minutes et 12 secondes. Trop de noir tue le noir. Et là, on se retrouve avec carrément une monoplace qui est quasiment totalement noire.
Oui, mais.
Et que tu mets en première position.
Mais oui, parce que elle est élégante. Voilà. Parce que je vois que je suis poussé dans mes retranchements. Si Williams avait sorti une voiture comme ça. C'était podium tout de suite. Donc, il y a aussi une question d'esthétique là-dedans. C'est pas une question de noir. Ça dépend comment il est utilisé, ce noir aussi, Gilles. Voilà.
Là, ils en ont mis partout, en fait.
Mais c'est magnifique. Voilà. On avait envie de les revoir sur le circuit, d'accord, ces voitures-là. Alors oui, on a adoré les flèches d'argent. C'est mythique. Mais le noir, voilà, ça, et puis ça colle plus à notre époque.
Mais finalement, le principe est respecté. Hein. Les flèches d'argent étaient couleur argent parce que les carrosseries à l'époque étaient en aluminium et qu'il fallait gratter la peinture pour gagner du poids. Maintenant, les monocoques sont en carbone et pour gagner du poids, on les fait noirs. Donc c'est le même principe en fait. On reste fidèle, seule la couleur change.
Et je trouve que même les couleurs du 63 en vert pour Russell et du 44 en jaune pour Hamilton, ça marche bien.
C'est d'un bon goût infini.
Et bien, dirais.
Et donc c'est la note de 9. Voilà.
Ah oui,
voilà.
Donc pas 10.
J'ai même pas. Non, j'ai. Non, parce qu'on non. va pas exagérer. On va pas. Voilà.
Et écoute, on te met au défi de nous faire une voiture 10 sur 10.
Tiens, peut-être, ça serait pas mal.
Ah.
Ça. Ouais. Voilà. Ta voiture
ça
à toi.
Ça peut être un bon défi.
Voilà. Ta voiture à toi. Et puis on la notera nous, tiens.
Tu as carte blanche.
On va lancer un petit truc, un petit hashtag les FDV, donc les LES, hein, comme voilà les. Et puis ensuite FDV comme fou du volant. Voilà, les FDV tout attaché. Hop, hashtag les FDV. Et puis hop sur Twitter, vous nous donnez votre avis, éventuellement votre classement à vous. Et puis on transmettra aussi la création de Quentin Guichard qui ne manquera pas de tomber dans les prochains jours.
Mais alors je vous fais une Formule 1 quoi ? De quelle écurie ? L'écurie Les Fous du Volant ?
De l'écurie ouais.
Les Fous du Volant, ouais.
Fous du Volant, ouais.
Ouais.
Okay, donc il y aura un petit peu de rouge normalement.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Merci Quentin.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Allez, après cette entrée en matière pour 2023... un petit peu humoristique, hein. Les goûts et les couleurs, chacun se fera son avis. On va parler de ce qui nous semble, nous, les points cruciaux de 2023 avec Julien Pereira. Alors, on en a choisi certains. Évidemment, vous pouvez très bien imaginer qu'on aurait pu en trouver beaucoup d'autres. On va s'intéresser évidemment aux trois top teams de la saison 2022, Red Bull, Ferrari et Mercedes. On commence par Red Bull avec Julien, les conséquences possibles des sanctions dont a hérité l'équipe de Christian Horner l'année dernière pour dépassement du plafond budgétaire. On rappelle un $7 millions d'amende et une réduction de 10% du temps de soufflerie. Et ça va finir, ça pose déjà des problèmes chez Red Bull.
Oui, ça pose déjà des problèmes, même si y a quand même une donnée qui est importante, c'est que le règlement n'a pas tant évolué cette saison. En tout cas, il n'y a pas eu de changement majeur. Et que vu que Red Bull était très loin devant la concurrence à la fin de saison dernière, a priori, pour le début de saison 2023, ça devrait pas trop mal se dérouler. C'est plutôt sur la suite de la saison, sur le plan des performances, que ça devrait se ressentir. Et d'ailleurs, on a vu que chez les écuries rivales, Ferrari et Mercedes, Quand la sanction est tombée, c'était « bah non, ça va pas changer grand-chose ». Et depuis, elles ont quand même fait évoluer leur discours en disant qu'effectivement, elles s'attendent quand même à ce que Red Bull rencontre des difficultés sur ce plan-là, sur le plan du développement aérodynamique, parce que globalement, en termes de nombre de sessions, Red Bull aura 25% de moins que Mercedes, ce qui est colossal.
Alors effectivement, alors je crois que c'est un petit peu moins que ça l'écart, ça serait 10...
En termes de nombre de sessions.
Oui, voilà, exactement. En fait, si vous voulez, pour se remettre les choses un petit peu dans le contexte, en dehors de toute sanction, déjà on avait prévu un échelonnement des temps de soufflerie et le vainqueur du classement des constructeurs, en l'occurrence Red Bull, ne devait avoir le droit que de 70% du temps de référence qui est basé sur un temps qu'on a déterminé voilà à la base. Si vous enlevez donc 10% de ces 70%, ça fait plus que 63% pour Red Bull, sachant que Ferrari ayant terminé deuxième a le droit à 75%, bah, entre 63 et 75%, ça fait 12% d'écart entre ces deux équipes de temps de soufflerie et je mettrais quand même qu'il n'y a pas beaucoup de modifications de règlement. Je pense qu'on pourra éventuellement faire un point là-dessus avant que le championnat commence. Mais dans les changements de règlement, il y a l'augmentation de la hauteur des monoplaces. On va augmenter la hauteur de 15 mm. Ça veut dire qu'il faut quand même passer pas mal de temps en soufflerie pour voir ce que ça implique en termes de pertes aéro. Et là, je pense que ça va vraiment poser problème à Red Bull d'avoir moins de temps hein, l'idée, c'est en nombre de sessions, ça fait 202 sessions pour Red Bull, 240 pour Ferrari et 256 pour Mercedes. C'est un écart énorme.
Quand on voit à quel point Mercedes a été capable justement de réduire l'écart de performance en dernière partie de saison dernière, on peut imaginer quand même que tout ce peloton se resserre au cours de la saison. On peut aussi se dire que Red Bull a peut-être encore un atout dans sa manche parce que, à la différence de Ferrari et de Mercedes, elle n'a absolument rien montré de sa monoplace pour la saison 2023. Pour présenter sa livrée, c'était purement un chocard la saison 2022. Qu'on peut imaginer quand même que Newey avait d'autres idées derrière la tête et que Red Bull a trouvé des choses, des petites choses pour limiter la perte. Ça, on verra tout ça aux essais la semaine prochaine. Mais oui, en fait, l'inquiétude pour Red Bull, c'est aussi de savoir dans quelle mesure Ferrari et Mercedes vont progresser. Et a priori, Mercedes est plutôt confiante à l'idée de pouvoir progresser, en tout cas pouvoir faire de cette machine et de ce concept aérodynamique, on va en parler juste après, un concept gagnant.
Voilà donc pour les conséquences de Red Bull et de cette sanction arrivée fin 2022. On passe à Ferrari, le point crucial pour Ferrari, pour nous. D'abord, fiabiliser la SF 2023 pour Fred Vasseur. En fait, la grande nouveauté chez Ferrari en 2023, c'est l'arrivée de Fred Vasseur, dont la méthode va être mise à l'épreuve. La première mission, évidemment, c'est de fiabiliser cette voiture qui a perdu trop de points par des problèmes de fiabilité. L'autre point, c'est qu'il va falloir essayer de ménager la tranquillité, la paix entre Charles Leclerc et Carlos Sainz.
Ouais, en fait, Vasseur, il va être attendu sur tous les plans, que ce soit le plan technique, que ce soit le plan du management.
Bah, il est chez Ferrari.
Il est chez Ferrari, exactement. On a beaucoup spéculé sur le fait que Leclerc, avec l'arrivée de Fred Vasseur, deviendrait le numéro 1.
Parce qu'il avait roulé chez Hart Grand Prix, l'équipe de Fred Vasseur, qu'il avait roulé chez Alpha à l'époque où Fred Vasseur était le team principal.
Pour le moment, Vasseur dit non. Il dit qu'il n'y aura pas de numéro 1, numéro 2. On essaiera de faire gagner les deux pilotes. Mais que si cette décision doit s'imposer, si Ferrari doit trancher, lui n'hésitera pas à le faire. Là, pour le coup, ça fait quand même une nette différence avec son prédécesseur Mattia Binotto. Et puis, tu l'as dit, sur la fiabilité de la monoplace, en fait, c'est tout ce qui va se passer en interne sur la réorganisation des équipes, sur comment on décide d'imposer des choses à certains ingénieurs notamment, parce qu'il y a une réalité, c'est que Ferrari est un petit peu revenu ces dernières années à ce qu'elle avait fait avant Todd Schumacher, c'est-à-dire on est revenu sur une équipe très latine et que ça peut poser problème sur certaines évolutions. Vasseur, sur ce plan-là, profite quand même du travail de Todd, parce qu'il y a quand même moins d'idées reçues qu'il y avait quand Todd est arrivé. Donc on va voir à quel point il est capable d'imposer ses idées, et est capable de réorganiser aussi Ferrari.
Et éventuellement à un moment d'amener ses hommes, même si parmi les déclarations qu'il a fait et qui sont toujours très très intéressantes, il y a le fait, on a parlé de la fiabilité, on a parlé des pilotes, il y avait la stratégie qui a posé d'énormes soucis en 2022. Et pour l'instant, Fred Vasseur, il n'a pas annoncé de révolution. On sait que c'est Iñaki Rueda, qui est espagnol, qui est chargé de la stratégie, qui est le chef des stratégistes chez Ferrari. Il n'a pas été du tout licencié. Fred Vasseur a l'air même plutôt de dire que voilà, c'est pas un problème d'homme, c'est plutôt un problème de communication, d'organisation sur le muret. En gros, il dit il y a trop de monde qui donne son avis, et le temps que tout le monde donne son avis, ben, la fenêtre pour prendre une décision, elle est passée.
Ouais, on a l'impression qu'il va chercher à être méthodique, c'est-à-dire déjà d'abord constater, avant de vouloir tout changer, tout révolutionner. Constater, c'est de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ensuite prendre les décisions qui s'imposent. Mais déjà, prendre des décisions qui s'imposent, ça serait déjà une nouveauté pour
oui.
Ferrari, finalement.
Bah oui, parce que ça a été un peu ce qui a été reproché beaucoup à Mattia Binotto, hein, c'était d'être dans le déni et donc de ne pas prendre de décisions. Voilà donc pour ce qu'on va surveiller tout particulièrement chez Ferrari, et donc chez Mercedes. La quasi-obligation pour Lewis Hamilton de reprendre l'avantage, de prendre tout court l'avantage
tout à fait.
Sur George Russell. L'année passée, on va le voir, hein, Lewis Hamilton avait été dominé par son coéquipier George Russell. 240 points pour Lewis Hamilton qui avait terminé 6e du championnat. 275 pour George Russell, surtout, qui avait ramené la seule et unique victoire de Mercedes l'an passé. Ça fait désordre.
Ouais, ça fait désordre, et en plus il y a quelque chose d'important, c'est que si on en est là, si on fait ce constat-là, c'est parce que Russell a réussi à mieux s'adapter à ce fameux concept aéro de la Mercedes, le concept sans ponton. Ça a été un petit peu plus compliqué pour Hamilton, on a senti que la fenêtre de fonctionnement était plus réduite pour lui. Et bah Mercedes n'a quasiment rien changé, en tout cas elle reste dans l'idée d'insister avec ce concept. Donc c'est intéressant de voir comment Hamilton peut ou non renverser la vapeur dans le duel contre son coéquipier, en sachant quand même que j'ai trouvé que alors évidemment il y a eu une nette différence dans son attitude à la présentation de la Mercedes par rapport à l'année dernière, parce que il y avait le fameux final d'Abu Dhabi dans sa tête encore une fois, mais je trouve qu'il est apaisé, je trouve qu'il est hyper motivé, et il y a quelque chose de rafraîchissant chez Hamilton, et c'est quand même important de le constater dans son attitude en tout cas.
Et on imagine bien qu'il n'a pas du tout passé la même intersaison
là
cet hiver que l'hiver dernier, où clairement il avait eu du mal à encaisser.
Oui, on avait même parlé d'une retraite.
Oui, clairement. Là, si on reprend l'idée de la retraite, il a 38 ans maintenant, Lewis Hamilton, et il arrive à un âge où si on est dominé par son coéquipier, on vous montre très très vite la porte de sortie. Sans doute un petit peu moins vite quand on s'appelle Lewis Hamilton, qu'on est septuple champion du monde, que pour un pilote lambda, mais son contrat arrive à terme. À la fin de la saison 2023. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ce qu'on joue hein, chez Mercedes.
Non.
Toto Wolff a expliqué qu'ils étaient déjà en train de parler pour le prolonger. On a le sentiment qu'on n'attendra même pas les résultats, mais quand même, ça peut devenir très compliqué.
Il y a quand même un statut à défendre, qu'il
c'est
soit
ça.
Prolongé ou non. Hamilton a toujours été numéro 1 et son but, c'est de le rester dans son écurie. Effectivement, là, on peut encore défendre la thèse de l'accident, entre guillemets, d'une saison un petit peu particulière avec le changement de règlement. Si ça continue de se passer comme ça s'est passé en 2022, cette saison, bah là, il n'y aura plus de thèse de l'accident à défendre. Ce sera vraiment une hiérarchie nette, à savoir Russell meilleur que Hamilton. Et là, effectivement, ça changerait beaucoup de choses pour lui.
Et en fait, cette hiérarchie, elle va déjà commencer à s'établir sur la première séance d'essai avant le début de la saison. Là, quelque part, il va déjà y avoir un enjeu pour beaucoup. On parle de Lewis Hamilton et de George Russell, mais si on élargit un tout petit peu le spectre, on parlait de Ferrari, c'est pareil, entre Carlos Sainz et Charles Leclerc, il va falloir tout de suite se positionner.
Exactement. Et c'est un petit peu différent parce que la relation entre Toto Wolff et ses pilotes n'est pas tout à fait celle qu'aura Vasseur avec Sainz et Leclerc, mais effectivement c'est un enjeu assez similaire.
On va passer au troisième et dernier sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui en ouverture de cette saison 2023 des Fous du Volant, les vœux de silence de la FIA. Alors là, il faut quand même reconnaître que on démarre fort cette saison 2023. On va faire un petit rappel. Toute fin de saison 2022, donc on était déjà, nous, dans notre intersaison, hein, dans notre hibernation.
En vacances, on peut le dire.
Voilà, exactement. On faisait autre chose, on vous rassure. Donc, il y a eu ce nouveau règlement sportif qui est rentré donc, en application au 1er janvier 2023 avec un article 12.2.1 alinéa N qui est assez curieux. La formulation générale et l'affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, notamment en violation du principe général de neutralité porté par la FIA au terme de ses statuts, blablabla. Donc, figure désormais au rang des infractions au règlement. Et là, tout le monde a froncé un petit peu les sourcils en disant « Mais c'est quoi ce truc ?» Et évidemment, les pilotes eux-mêmes s'en sont un petit peu émus, à commencer par le plus connu d'entre eux, Lewis Hamilton, qui est en plus un des plus actifs en termes de, d'avis et d'engagement. Parce que, en gros, l'idée, Julien, ben, c'est de museler les pilotes, on est d'accord ?
C'est clairement l'idée, et la FIA a même précisé dans quel cadre les pilotes n'auraient plus le droit de manifester quoi que ce soit sur ces plans-là. Et ben, en fait, il n'y a plus de cadre, tout simplement.
Ouais,
c'est-à-dire qu'il y a l'avant-course, il y a l'après-course, il y a pendant les courses, il y a en zone mixte, etc. Grosso modo, ils ont le droit de donner leur opinion qu'une fois que qu'un journaliste leur aura posé une question.
Voilà, un journaliste accrédité, ce qui veut dire que le journaliste accrédité qui a posé la question, qui conduit éventuellement à une réponse litigieuse aux yeux de la FIA, ben, son accréditation ne marchera pas le week-end d'après quand il va rentrer dans le paddock, ça va faire « Ah, tiens, non, vous ne rentrez plus, monsieur ».
Et sur leurs réseaux sociaux aussi.
Oui,
la FIA,
ça, ils ont le droit.
Voilà,
ils ont le droit. Et alors, c'est assez incroyable, la FIA donc, a émis une note le 17 février, donc là c'est vraiment tout frais, pour préciser tout ça, hein, que effectivement ils pouvaient quand même communiquer sur leurs propres réseaux sociaux, sur les événements aussi mis en place par leurs propres équipes. Et puis on a ouvert la porte en disant non, mais ils pourront quand même parler de sujets un petit peu délicats, mais alors il faut en faire la demande 4 semaines avant, voilà, de pouvoir parler.
Donc on supprime la spontanéité de ces messages qui ont quand même, c'est quand même un élément qui a une importance sur ces messages-là. Précision importante, le signe de croix de Gasly avant de monter dans sa monoplace, qu'on a beaucoup vu, lui sera toléré, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Mais globalement, pour revenir à ce nouveau texte, à cette mise à jour du règlement, pourquoi la FIA a décidé ça ? Bah, tout simplement parce que on cherche à faire évoluer la F1, à faire grandir la F1, que maintenant la F1 se déplace dans des pays où certains sujets sont soit interdits, soit sensibles, et que bah, ça pose problème au niveau des négociations, au niveau des échanges entre les promoteurs et la Formule 1. Alors globalement, Dominique Calil, patron de la F1, lui, s'est un petit peu positionné à mi-chemin entre la FIA et les pilotes en disant...
C'est ça, il n'est pas à la FIA, hein, attention, hein, Stefano, oui, Domenicali, c'est le directeur de la Formule 1.
C'est deux choses différentes.
Voilà.
Il y a d'un côté l'instance et de l'autre le propriétaire de la Formule 1, donc, et ses dirigeants, à savoir Domenicali. Lui, s'est un petit peu positionné à mi-chemin en disant « Nous, on ne musellera pas les pilotes, mais... quand ça va un petit peu trop loin, je suis pas d'accord non plus. »
Voilà, ouais, c'est ça.
En gros,
il s'est placé un petit peu entre les deux, parce qu'il y a quand même un petit peu de bisbille entre la FIA et le détenteur de la Formule 1. Donc, au final, il essaye de se mettre un petit peu entre les deux points, sachant que de quoi on parle ? On parle de ce qui pourrait éventuellement dissuader certains promoteurs de Grand Prix, bah de venir engager beaucoup d'argent pour rentrer au calendrier. Je vous rappelle qu'on a quand même fait une Coupe du Monde de football cet hiver avec le fait de porter un brassard arc-en-ciel qui pouvait engager derrière une sanction sportive, parce qu'un carton jaune, c'est une sanction sportive. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on pense tout de suite au pays du Golfe. On pense aux dictatures en se disant oui, voilà, c'est pour viser un petit peu, pour surtout pas faire de vagues avec les dictatures. On est quand même dans une période où en ce moment il y a un conflit armé en Europe entre la Russie et l'Ukraine. On n'a pas trop envie que les pilotes abordent ce genre de sujet. Mais au final, même dans les grandes démocraties, il y a des sujets que les promoteurs n'ont pas du tout envie de voir. Je pense aux États-Unis. Il va y avoir 3 grands prix aux États-Unis. On n'a surtout pas envie de voir un Lewis Hamilton arriver de nouveau avec le t-shirt qu'il avait porté pour demander justice après la mort d'une afro-américaine. Ce genre de choses, on sait qu'il est très très engagé sur l'équité des droits civiques, Lewis Hamilton, mais il y a tellement d'autres choses en ce moment très très sensibles, alors aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays. Il y a des pays qui se ferment et des États qui se ferment. Ça sera le cas pour 2 grands prix sur les 3 aux États-Unis au droit à l'avortement. Imaginez qu'il y a un dérapage de ce côté-là. Les organisateurs de grands prix, ils ont surtout pas envie d'avoir ce genre de choses. Il y a des lobbies qui sont très très importants. Je pense au port d'armes. Aux États-Unis, on a surtout pas envie d'avoir un pilote qui vienne sur ce sujet. Et donc on ferme. Et bah les
on
pilotes,
essaye de fermer.
Voilà. Et les pilotes, évidemment, ils ont pas du tout envie. On a parlé de Lewis Hamilton qui, alors lui, dit « Rien ne m'empêchera de parler de ce qui me passionne, des problématiques qui existent. Le sport a la responsabilité de parler de sujets, de faire prendre conscience de thématiques importantes, d'autant plus en voyageant dans plusieurs endroits du monde. Donc, rien ne change pour moi. » Ça, c'est quand vous êtes septuple champion du monde. On sait que vous pouvez vous permettre des choses que un pilote qui arrive ne peut pas. Et au final, celui qui est le plus légitime pour parler sur ce sujet, c'est le représentant des pilotes, George Russell, Julien.
Tout à fait, qui lui aussi a réagi en disant « je pense que c'est totalement inutile et dans le sport et dans le monde dans lequel nous vivons en ce moment ». C'est important aussi parce que George Russell a l'image également d'un Pierre Gasly, par exemple, a quand même une voix qui porte dans le paddock. Et alors, opinion très personnelle, j'ai plutôt la sensation que ces mesures-là vont être contre-productifs pour la FIA parce que je pense que les pilotes ne vont pas la fermer, pour le dire très clairement. Et je pense aussi que ça fait partie de leur rôle de s'exprimer sur ces sujets-là. On se souvient quand même de l'importance du mouvement Black Lives Matter qui a été défendu par Hamilton. Si Hamilton n'avait pas pris toutes ses initiatives à ce moment-là, donc c'était en 2020, peut-être que ce mouvement n'aurait pas eu le même ampleur. Donc c'est important et je pense que ça va être contre-productif. Et même si un pilote comme Sébastien Vettel, qui lui aussi avait une voix qui portait beaucoup et qui défendait beaucoup de combats, n'est plus là, je pense qu'il y a quand même une vraie relève derrière.
Qui avait notamment organisé une course de karting pour des femmes en Arabie Saoudite.
Tout à fait.
Donc c'était aussi une façon très très intelligente, j'ai trouvé, justement de lutter contre cette envie là, ce vœu de silence finalement de la FIA. Sois rapide et tais-toi.
Mais c'est exactement ça, et tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on observe dans d'autres sports, notamment le football. Le sport est maintenant un vecteur de liberté, d'égalité, de combat aussi, et je pense que les pilotes en ont de plus en plus conscience. Et c'est important qu'il y ait eu des modèles comme Hamilton, qui est encore là bien sûr, ou comme Vettel, pour les nouveaux pilotes. Il y a une vraie nouvelle génération de pilotes qui cherchent à défendre tous ces combats-là.
Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être plutôt contre-productif et que ça va plutôt les piquer et qu'en final, ça, il n'y aura jamais rien. Parce que pour en terminer, quand même, s'il y a infraction, c'est qu'à un moment, l'idée, c'est qu'il y ait des sanctions. Et en fait, on n'a rien prévu de particulier sur les sanctions. Et d'ailleurs, la FIA a même un petit peu botté en touche.
Oui, on se réfère aux sanctions classiques qui existent déjà.
En fait, c'est les directeurs
de
course qui vont donner les sanctions.
Qui vont de l'avertissement à la suspension pour un Grand Prix.
On voit mal un directeur de course exclure d'un Grand Prix Lewis Hamilton parce qu'il aura, j'en sais rien, levé le poing, porté un t-shirt.
Donc il y aura des avertissements, il y aura des blâmes, il y aura sûrement des amendes.
Et ça fera encore plus parler.
Voilà. J'ai envie... Exactement, donc ça sera contre-productif pour la FIA, à la limite tant mieux. J'ai envie de vous dire, si vous voulez mettre des amendes à Lewis Hamilton ou même à n'importe quel pilote de Formule 1, allez-y. Je ne pense pas que ce soit ça qui les fasse taire.
Et évidemment, on surveillera ça de près. Voilà donc pour ce qu'on a choisi d'évoquer, pour ce premier rendez-vous du Faux du Volant millésime 2023. On aurait pu faire 8h35 d'émission, mais bon, il faut bien se limiter un petit peu. Ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On vous rappelle aussi le petit hashtag, les FDV. Sur Twitter pour nous donner votre avis, nous poser des questions éventuellement sur les prochaines semaines. On peut s'inspirer de ce que vous nous dites pour développer telle ou telle thématique. Et puis vous donner rendez-vous la semaine prochaine. C'est toi, Jap, qui...
Non, ce sera Stéphane.
Ce sera Stéphane
de retour.
D'accord. Et bien Stéphane qui sera là. On va voir comment on va s'organiser. Parce que moi, normalement, je suis du côté de l'Automobile Club de l'Ouest. J'aurai l'immense plaisir de parler avec Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest. Et justement, du côté de l'Automobile Club de l'Ouest, c'est pareil. La balance de performance entre les voitures... On n'aura pas le droit d'en parler. Donc ça, c'est pareil, j'ai envie de lui poser la question, savoir comment on va gérer, comment on fait, on coupe les micros, on éteint tout, on coupe l'électricité.
Bah, comme ça, il est prévenu, s'il écoute les Fous du Volant, il a déjà une de tes questions.
Mais je sais qu'il écoute les Fous du Volant, mais il sait déjà qu'on va en parler, savoir comment on peut s'organiser. Je trouve que c'est très intéressant de savoir comment on est à une époque d'hypercommunication, comment on gère ça du côté des organisateurs, avec peut-être un petit peu plus quand même de finesse du côté de l'ACO que ce qu'on a vu là ces derniers jours du côté de la FIA. On vous souhaite une bonne semaine, profitez bien de ces premiers essais de la Formule 1 sur le circuit de Sakhir et on se retrouve la semaine prochaine dans les Fous du Volant. Et d'ici là,
coupez le moteur.
Il faut couper le contact, t'as oublié.
Couper le contact, évidemment, j'ai dit le moteur, pardon.
Ah, va falloir reprendre des vieilles habitudes.
Allez, à la semaine prochaine.